grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, en compagnie de la co-commissaire de l'exposition Au commencement, au Mokopanassé, Ramouna Boutayeb, l'artiste Anna Mondieta a créé une œuvre singulière, en constante transformation tendant vers l'immatériel. L'auteur de science-fiction Ursula Le Guin a dit de l'œuvre de Mondieta que c'est une sorte de fiction fourre-tout, plein de commencements sans fin, d'amorces, de pertes, de transformations et de traductions. Abordons un peu l'aspect des traductions de l'œuvre d'Anna Mondieta. À l'occasion de l'exposition présentée à Montpellier, les commissaires ont fait le choix de réactualiser certaines pièces. Ainsi, l'installation Untitled Silhouette Series dont nous avions parlé précédemment, une pièce immersive et éphémère faite en 1978 à Long Island. Cette pièce a été reconstituée, réactivée, traduite, pourrait-on dire, ici à Montpellier d'après des photographies documentaires existantes. Comme Ramouna Boutayeb l'a expliqué lors de son interview, ces documents photographiques ont été ici employés comme partitions. C'est-à-dire que ces photographies ont servi à reconstruire, à transposer, à traduire l'œuvre d'après ces photos, dans un contexte qui diffère de celui de sa présentation originale. Par exemple, les branches issues d'arbres de chêne de l'installation originale, collectées par Anna Mondieta et les étudiants qui l'aidaient sur Long Island, ont été ici, à Montpellier, remplacées par de la pinède, typique du littoral héraultais. Du côté de la philosophie analytique, le philosophe américain Nelson Goodman a réfléchi dans son ouvrage « Languages of Arts » édité en 1968 à ce qui distingue une partition d'une œuvre originale. Il y différencie deux sortes d'arts. D'une part les arts allographiques, dont les œuvres seraient reproductibles, et d'autre part les arts autographiques, dont les œuvres ne seraient pas reproductibles. Pour Goodman, la danse, la musique et du texte sont de l'ordre allographique puisque grâce à une partition, on peut le répliquer de manière conforme. Ces partitions sont constituées des symboles, des notes, des lettres, des dessins, dont il dit, je cite, « la fonction essentielle d'un symbole est de tenir lieu de quelque chose ». Puis, il y a les œuvres autographiques. Ce sont les œuvres dites originales, comme une peinture, une sculpture ou une performance, et dont la copie, même tout à fait exacte, n'acquiert jamais un statut d'authenticité. Pour Goodman, les œuvres autographiques ne sont pas reproductibles car constituées d'un ensemble de signes dont on ne peut pas faire la copie sans perdre une part de leur singularité. Ces qualités non reproductibles seraient par exemple leur matière, leur matérialité ou leur caractère performatif. La peinture, la sculpture et la performance sont définies par Goodman comme analogiques. Elles ne peuvent être décrites à l'aide d'une notation quelconque car on pourra ajouter « pour une peinture, une sculpture, une installation, une performance, il n'y a pas de modèle à la base. Ces œuvres ont été créées par la rencontre conflictuelle d'un projet, d'une idée, de la matière qui l'entend transformer et dont l'effet s'appelle œuvre. » Donc a priori, dans le sens de Goodman, faire d'une installation éphémère de Mondieta une œuvre allographique, une reproduction, une copie ne va pas de soi. Mais d'un autre côté, pourrait-on se demander, cette analyse de Goodman qui fait autorité depuis 50 ans, ne s'avère-t-elle pas, malgré son impression de rigueur, sur bien des points marqués par des préjugés, que justement l'œuvre d'Anna Mondieta met en cause? Car le problème de l'origine et de la divergence vrai-faux, original-copie à hauteur de l'opposition entre art auto-allographique, ne serait-ce pas des distinctions tentées des préjugés idéologiques? En introduisant l'écart entre le faux et le vrai, ne sous-entend-on pas que l'original a plus de valeur que sa copie? Et ce sous-entendu n'est-il pas propre à l'approche occidentale de l'art que l'œuvre d'Anna Mondieta semble justement vouloir questionner et dépasser? La description de l'œuvre d'art reproductible telle que Goodman l'a définie rappelle, toute proportion gardée, la situation de l'art avant l'époque moderne. À cette époque, la copie s'échangeait avec son modèle parce que l'une et l'autre se pensaient comme étant le reflet du même ordre. Le philosophe Jean Baudrillard dit à propos du monde prémoderne Tout y est le reflet d'un ordre, celui des dieux, de la nature ou plus simplement du discours. Et tout ce qui se crée sont les représentations de cet ordre. L'original et copie sont tous deux admises au même titre, car tous deux commentaires perpétuels d'un même texte. Et toutes les copies qui s'en inspirent sont justifiées. Autrement dit, ici la question de l'authenticité ne se pose pas et l'œuvre d'art n'est pas menacée par son double, le faux n'existe pas. Quand on regarde les domaines dans lesquels Anna Modietta a été pionnière dans le land art ou l'écoféminisme et qu'elle a su combiner, on voit que l'artiste inscrit son œuvre dans une forme de vision du monde qui mêle art et la vie et se rapproche d'un état qui prend source dans une vision holistique globale du monde où tout est interconnecté et rien n'est figé. Tout se transforme constamment. Ce que Modietta semble vouloir partager avant tout est une forme d'énergie et n'est pas un objet. Cette approche questionne, en fine, la notion d'auteur et de l'authenticité et plus largement le rôle que l'art a dans la société. Elle met en question la définition occidentale de l'art. La vision du monde et de l'art qu'elle propose, qui implique une forme d'humilité et de respect des lois de la nature, qu'elle ne veut pas contrer, mais au contraire dans lequel elle veut se fondre. La vision du monde et de l'art qu'elle propose implique une forme d'humilité et de respect des lois de la nature, qu'elle ne veut pas contrer, mais au contraire dans lequel elle veut se fondre. Les images qu'elle met au monde sont avant tout mentales et le reflet de ce qu'elle appelle « nature ». Comme elle le dit, son art est sa façon de rétablir les liens qui l'unissent à l'univers. Par exemple, sa participation au Land Art ne repose pas, contrairement à d'autres, sur l'extraction, le monumental ou encore le permanent, mais s'impose par l'immatériel. Il y a dans l'œuvre d'Anna Modietta la volonté de se fondre dans l'environnement, de l'écouter, de s'unir avec les éléments qui les constituent. En regardant par exemple la série de photographies Oshun de 1981, on voit deux tracés de sable ondulant se faisant face, dessiner la silhouette d'une déesse terre, l'une de ses formes fétiches. Ces silhouettes faites de sable sont réalisées en bordure de mer. Leur emplacement et leur matérialité nous indiquent qu'elles vont disparaître d'ici très peu de temps, emportées par la marée. Ou encore en Title Silhouette de 1981, une photographie en noir et blanc d'une commande qui lui avait été faite pour un cimetière à Georgetown. Sur cette photo, on voit au loin des stèles des tombes du cimetière. Puis devant, une pelouse sur laquelle on décèle un volume qui s'effondre dans le paysage. Ce volume est à peu près de taille humaine, cela ressemble à une silhouette. Et cette sorte de colline est recouverte d'herbe et c'est la même que la pelouse qui l'entoure. Et dont on a du mal à la distinguer. La sculpture de Modietta est là encore éphémère, vouée à disparaître, à s'enfoncer dans le sol, à redevenir avec le temps entièrement pelouse par l'érosion. Par la suite, en 1981, Modietta réalise aussi Cyber Fetish au Cuban Memorial Boulevard Park au sud de Miami, dans le quartier cubain de Little Havana, sur le tronc d'un ceiba, un arbre à la symbolique forte, arbre sacré ou arbre de vie. Elle y creuse une figure masculine verticale à partir d'une racine et colle les cheveux autour de trois nœuds en forme d'organes génitaux féminins. Elle accentue ainsi le nœud de l'arbre vieillissant. Comme l'écrit Ramuna Boutayeb dans son texte de catalogue qui accompagne l'exposition, ce parc est un lieu de fierté pour les exilés cubains et un site sacré pour les santeros, adeptes de la santeria, la religion afro-cubaine. La communauté va s'approprier l'œuvre, y déposer des offrandes, la transformer, par exemple en ajoutant des coquillages pour figurer une bouche. Cette œuvre souligne l'aspect fédérateur que Modietta veut donner et que l'œuvre soit originale ou pas est secondaire. Mais allons maintenant à la rencontre de Barbara Luschenska pour suivre son regard sur l'œuvre d'Anna Modietta au sein de l'exposition du Moco Panacé à Montpellier. Barbara Luschenska est artiste d'origine polonaise et basée à Paris. Elle est également chargée d'exposition à la galerie Anne Plus à Paris. Sur la carte qu'elle m'a donnée, on peut lire qu'elle s'appelle aussi No One, Personne, Rosa Spola, Rose sans la vie, Os c'est la vie, O c'est la vie, Or c'est la vie, Rose sans la vie, Rose serve la vie, Rose celle qui rit, O c'est la vie, Rose c'est la vie, Rose Polska, O c'est la vie, Rose céleri, Prose c'est la vie. Ces nombreux noms d'emprunts, qui sont un poème en soi, nous donnent une idée de son univers complexe, drôle et pluriel. Barbara nous parlera devant trois œuvres d'Anna Modietta. Anima, de 1982, qui consiste en 15 cristaux de roche noirs placés dans le sol et l'herbe, une installation qui est ici reconstituée à l'intérieur de l'exposition. Untitled Silhouette Series, Iowa, 1979, une photographie couleur. Puis Itiba Kahubaba, Esculturas Rupestres, sont de la vieille mère, sculpture rupestre de 1981, une photographie noir et blanc. Barbara Lujenska nous dira pourquoi l'œuvre d'Anna Modjeta l'inspire-t-elle et qui, par ailleurs, la fait penser également à l'œuvre littéraire de l'écrivaine, activiste et intellectuelle polonaise Olga Nawoja-Tokarczuk. Hors antenne, Barbara Lujenska m'a aussi confié que l'œuvre d'Anna Modjeta la faisait penser à celle de la photographe américaine Francesca Woodman, une autre artiste qu'elle adore. Comme cette dernière, Anna Modjeta est morte jeune, de manière tragique. En 1985, Anna Modjeta était trouvée morte à l'âge de 36 ans en chutant d'un gratte-ciel new-yorkais. Inculpé, son mari, le très connu sculpteur Karl André, a finalement été relaxé. L'œuvre d'Anna Modjeta a longtemps été occultée par cette mort tragique. D'où l'importance de faire connaître son œuvre, de le rétablir et de la reconstituer et de la traduire si besoin, comme l'exposition Moko Panacée contribue à le faire. Pour cette émission, n'attardons-nous donc pas sur les circonstances de sa mort, mais plongeons dans les méandres des traces qu'Anna Modjeta nous a laissées. Suivons maintenant le regard de l'artiste Barbara Lujenska. Bonjour.
Bonjour.
Barbara Lujenska, tu es en train de visiter l'exposition de Anna Modjeta. Est-ce que tu voudrais faire un petit tour avec moi ?
Oui, avec plaisir. Je suis venue exprès depuis Paris pour voir cette exposition parce que ce travail me touche beaucoup.
Bien, on va voir ici. Alors là, on est devant l'œuvre de Anna Modjeta qui s'appelle Anima et elle date de 1982, on sent l'herbe, il y a des champignons qui poussent.
Oui, c'est vrai, je ne les ai pas vus. Ce qui est frappant, c'est cette odeur de l'humidité de la terre qui est pour moi une partie très importante de l'œuvre. Autant visuellement, cette participation de tous les sens, en fait. Il y a la notion des terres qui est très importante dans le travail d'Anna Modjeta. Et donc, on voit un sort de tombeau mégalithique, on dirait, avec des pierres qui brillent avec la terre. On dirait un tombeau d'une culture primitive ou une sépulture. Donc, quelque chose qui, en même temps, qui est enterré, mais qui est vivant. Et cette notion de la mystère, dans le catalogue, j'ai vu, on parle du secret. Mais en fait, c'est une mystère pour moi. Le secret, c'est quelque chose qui peut être exprimé, qui est caché, qui peut y être dit. Une mystère, il n'y aura jamais de solution et ce n'est pas quelque chose exprimable. Donc, dans le contexte d'Anna Modjeta, c'est une mystère pour moi. Son travail est une mystère. Qui va être jamais résolu, et ce qui est le plus beau. En regardant cette œuvre, je me rappelle l'œuvre de, je crois, Voltaire di Maria, qui a ramené des tons de terre dans la galerie. Et cette idée de ramener des éléments naturels à l'intérieur, faire ramener la nature dans l'espace culturel, parce qu'on a tellement perdu ce contact avec la nature, on a tellement oublié ce lien, qu'on a besoin de les revivre dans le cadre culturel. Et donc, du coup, ça ramène au lien avec Landart, qui était contemporain à Anna Modjeta. Et évidemment, on a dit que son art, par rapport à Landart masculin, ce que je trouve très beau, il était beaucoup plus humble. Utilisation, pas la destruction de la nature, déplacement pas des tonnes et des tonnes de matière. C'est ce qui me touche particulièrement. Voilà, c'est que c'était simple, c'était plus arte povera pour moi. Et justement, cette paradoxe que arte povera qui est tellement plus riche.
Puis on va continuer un peu cette balade ensemble. Vers quoi tu veux m'amener ?
Alors, c'est l'œuvre au fond qui me touche particulièrement, où on voit une sorte de colonne vertébrale avec des vertèbres qui il n'apparaît pas souvent dans son travail.
Donc ça, c'est une photo. Hein. On est devant une photo noir et blanc, grand format. Je pense que c'est un retirage. Et c'était pas... Donc c'est une œuvre refaite. Mmh. Hein. Et donc, on voit... C'est une empreinte. On dirait une empreinte sur la pierre. Enfin, une gravure. Ouais. C'est assez violent, en fait. Hein,
C'est violent, oui. Donc... ma première pensée, c'était des vertèbres, une colonne vertébrale, mais en m'approchant aussi, j'ai dit que ça pourrait être aussi une feuille avec des nervures d'une feuille. Et du coup, ça, pour moi, ça m'évoque l'unité du vivant, des formes structurelles du vivant dans la nature, en fait. Parce que c'est tellement évocatif, ça peut être les deux.
Et qu'est-ce que tu touches personnellement dans cette œuvre, toi, en tant qu'artiste
J'aime bien le mot toucher, justement, parce que c'est la terre, on a envie de toucher, on sent la touche de l'artiste, la main qui a touché cette terre, et c'est quelque chose d'extrêmement sensuel, extrêmement primaire. Et du coup, je me demande aussi tout ce qu'elle a fait. Il y a un rapport très direct avec l'esthétique archaïque, primitive. Et donc, on n'est pas forcément spécialiste de ces cultures. On ne l'étudie pas. Il y a un énorme écart. Mais ma question est-ce qu'il y a des choses tellement universelles dans cette forme d'expression de ces cultures-là que nous pouvons comprendre intuitivement, pas rationnellement, sans avoir toutes les connaissances ethnographiques. Je recherche toujours ces résidus, ces restes de l'homme archaïque, de son façon de penser archaïque, dans nos comportements, dans nos vies d'aujourd'hui, des choses qu'on ne réalise pas, mais des petites touches qui se révèlent comme ça.
Ça, c'est incroyable aussi.
C'est incroyable.
Alors là, on est devant une photo qui fait penser... à cette peinture des
Ophélie.
Donc c'est une silhouette flottante, noyée. Alors il y a de la végétation qui transperce la silhouette. Donc c'est comme si la silhouette était digérée, accaparée par la nature et tournée comme ça dans la boue.
Ressort ou retourne. Il y a les deux mouvements en fait. C'est ça qui fait le grand arc, c'est équivoque, élusif, qu'on ne peut pas savoir la direction du mouvement.
Il y a des ombres aussi qui sont très étonnantes. Enfin, c'est pris d'un haut, c'est très étrange.
Au niveau des couleurs, je trouve déjà la photo est extrêmement réussie avec ce vert.
Presque fluo.
Oui, fluo, tout à fait. Et du coup, on dirait même un extraterrestre.
Oui, puis cette tension entre la vitalité de la flore. Qui est très vif et puis cette silhouette presque comme dans une scène des crimes où on détourne la personne qui
c'est
est morte.
Vrai aussi, on peut avoir ça et beaucoup dont aussi des peintures pariétales, des silhouettes et qu'on voit aussi dans la peinture des aborigènes, des silhouettes qui parlent de la présence et d'absence en même temps et des transpositions de quelque chose de vivant d'un être vivant en deux dimensions, une projection. Et c'est, l'homme qui recherche le miroir de lui-même dans la nature et le voit forcément parce qu'on est humain, on voit cette silhouette qui pourrait être quelque chose complètement abstrait et pas voulu. En tout cas, c'est que cette œuvre résume très bien dans le travail d'Anamed Dieta, c'est l'union entre la vie et la mort. En fait, nous, on est habitués de... pensées dont des opposés et en fait les façons de penser primitives ils dépassent cette notion des binarités, bipolarité, binarité, c'est ça, binarité.
Oui, d'accord, ouais.
Et du coup la vie et la mort c'est le même en fait, c'est un cycle, il n'y a rien d'effrayant ou de déprimant dans la mort c'est le recommencement. C'est la nouvelle vie et la vie, c'est la mort de quelque chose qui était d'avant. Donc, c'est ce message extrêmement universel dans notre civilisation d'aujourd'hui. La mort, c'est le tabou, c'est quelque chose inavouable et honteux. Et c'est ça qui nous rend malheureux, c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien. Voilà, donc pour moi, cette vision de la vie de la mort, c'est quelque chose d'hibérateur et extrêmement positive. Dans son travail, elle parle de la circulation d'énergie, une notion qui est présente dans la culture primitive archaïque, souvent. Voilà, donc la vie, c'est une circulation d'énergie sous les diverses formes. Et la mort, la vie, c'est juste un changement, une métamorphose d'une forme, de l'une à l'autre. Donc, c'est extrêmement beau et touchant.
On va continuer la conversation dehors, peut-être. Ouais. Alors là, Barbara, on se trouve... donc, on est sorti de l'espace d'exposition. Et là, on se trouve dans le patio, donc on entend la restauration, on entend la fontaine au fond.
J'avais envie d'évoquer un discours d'Olga Tokarczuk, qui est nobliste polonaise, écrivaine polonaise. Et elle parle d'un terme en polonais qui s'appelle « czułość ». Et j'essayais de traduire ces termes en polonais. Et en créant une liste de définitions, je réalise que chaque de ces définitions décrit à merveille le travail, l'effet que le travail d'Anna Mendieta fait sur nous. Donc « czułość », ça serait une relation particulière au monde, une recherche des ressemblances, des liens profonds avec le monde, des relations. Tout ce qui compte au final, c'est pas les personnes, les objets, mais des relations, une relation avec l'autre. Empathie, sympathie, là je liste les mots, il y en a, ça je ne sais pas comment traduire, co-ressentir, attention, ça c'est ce que Tokarczuk a dit, moi je rajoute bienveillante, participation, partage, engagement, quelque chose qui me touche beaucoup, acceptation inconditionnelle, ça c'est, on retrouve ça au final dans les grandes notions philosophiques de la pensée bouddhiste. Dans le yoga, dans mindfulness, on retrouve cette notion d'acceptation inconditionnelle qui est un autre mot de l'amour aussi. Tokarczuk on parle pas, mais pour moi c'est aussi un type de l'amour. Donc tout ça dans ce terme qui explique cette relation pleine d'amour au monde et qui est aussi une définition de faire de l'art.
Merci beaucoup, Barbara. On se retrouve la semaine prochaine au Musée Fabre devant l'œuvre de Pierrette Bloch.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme, une émission par Nadia Lichtig.